L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Ça y est, on est parti la semaine dernière pour ce parcours chaque semaine autour de la parole de Dieu, de l'évangile pour le couple. Et là, nous rentrons dans le vif du sujet avec ce premier texte de l'évangile de Matthieu. Et cet évangile, vous savez, c'est on avait évoqué à la fin de la dernière émission de combien Jean-Paul II nous a fait un enseignement magistral extraordinaire qu'aucun pape n'a jamais fait sur le mariage et sur son mystère. Et le cœur de l'enseignement de Jean-Paul II sur le mariage, il s'appuie sur l'évangile de Matthieu 19 et des premiers versets. Alors Maud, s'il te plaît, est-ce qu'on peut lire un peu ces premiers versets? Et puis on va essayer de se laisser bousculer, interpeller par cette parole.
Voilà, surtout qu'il faut les savourer, parce que c'est une des rares fois où Jésus parle du mariage dans l'Évangile. Donc c'est aussi l'occasion pour nous d'entendre sa voix sur ces questions-là. Des pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dirent pour lui tendre un piège. « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit mâles et femelles, et qu'il a dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Ils lui disent alors, « Mais pourquoi Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie ?» Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le dis, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère. »
Alors voilà justement, voilà le cœur de l'enseignement de Jean-Paul II sur le mariage. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire profondément qu'effectivement, Jésus constate qu'effectivement pour les hommes, c'est très difficile de s'aimer. Et qu'effectivement pour un homme et une femme, c'est très difficile de s'aimer. Effectivement, il y a le constat, même Moïse, plus grand des prophètes, a vraiment autorisé cette répudiation, prenant acte qu'effectivement, pour l'homme et la femme, c'est très difficile de s'aimer. Mais Jésus ne s'arrête pas à ce constat. Il renvoie à notre vocation première et universelle. Et il nous dit, à nous tous, vous voulez comprendre le mariage? Vous voulez comprendre comment un homme et une femme qui s'aiment fonctionnent? Alors revenez à la racine, revenez à la genèse. C'est pas la genèse historique, c'est à la genèse universelle, c'est-à-dire à la vocation universelle d'un homme et d'une femme. On est aux racines anthropologiques, on est aux racines bibliques, spirituelles à nos gènes. Et Jésus nous renvoie à ces racines de notre humanité. Comprenons nos gènes. On a besoin de respirer, on a besoin de manger. Ça, c'est inscrit dans nos gènes. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Eh bien, au niveau de la vie conjugale, mais c'est peut-être un peu plus mystérieux, eh bien, il faut comprendre quelle est la vocation universelle de l'homme et de la femme. Et pour cela, les deux premiers chapitres de la Genèse, sur lesquels on va s'attacher aujourd'hui, nous éclaire énormément. Et on va suivre, effectivement, Maud, l'invitation de Jésus à comprendre ce qui nous est dit à ce moment-là.
Voilà, les deux chapitres de la Genèse, ce sont les deux premiers livres qui ouvrent toute la parole de Dieu, toute la Bible, et qui, bien sûr, est commune avec nos frères juifs. Et sur ce sujet, bon, ils sont bien plus avertis que nous pour commenter, pour faire une exégèse. Nous ne sommes pas des exégètes. Mais nous savons que dans cette parole-là, dans ces quelques versets, les premiers chapitres de la Genèse, et décrit tout ce qui fait notre pâte humaine. Et c'est pas tout à fait un hasard si aujourd'hui des psychiatres ou des pédagogues, des pédiatres vont se référer à la Genèse par rapport justement aux données fondamentales de l'être humain. Donc, dans ces premiers chapitres de la Genèse, qui sont un peu comme une grande poésie, il y a ce mouvement de la création qui est décrit, et que vous connaissez tous, le premier jour Dieu créa, le deuxième jour Dieu créera, etc., etc. Et on constate que Dieu crée en séparant à chaque fois le masculin du féminin. Finalement, il crée en séparant et dans l'espace créé, et justement la place pour chacun, pour l'existence de chaque chose. Il crée la terre, le ciel, il sépare la mer, la terre ferme, et puis il en vient à l'homme. Et comme sommet, comme aboutissement de la création, voici l'homme qui, à nouveau, va être séparé en homme et femme. Et on a ce verset très beau, très simple, mais très beau. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa.
Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très important. C'est que il est dit déjà, on campe déjà dans cette Genèse, que l'image de Dieu est inscrite dans chaque homme, dans chaque individu, mais chose qui est justement pas souvent ou insuffisamment relevée, c'est que l'image de Dieu est incomplète si elle est uniquement au niveau de l'individu. Elle l'est aussi au niveau de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, pour saisir l'image de Dieu, il faut la voir la personne, mais également le couple. Et que pour comprendre Dieu, je le vois au travers de chacune des personnes, mais je le vois également au travers d'un couple, au travers d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Et on retrouve là, bien sûr, pour ceux qui, bien sûr, connaissent leur catéchisme, connaissent la révélation, on voit bien, bien entendu, toute la, entre guillemets, la révélation du Dieu Trinité, à la fois un et trois. Un est multiple. Et donc, comme cela, l'image de Dieu, elle est révélée au niveau de la personne, et elle est révélée au niveau de l'amour de l'homme et d'une femme. Donc, nous avons, quelle est notre perspective? Déjà, on peut le saisir, notre vocation, c'est d'être communion pour révéler et être à l'image de Dieu. On a déjà ce dessein de la vie conjugale.
Voilà, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sent justement que dès les premiers versets qui parlent de l'homme, tout de suite, l'homme et la femme sont posés en vis-à-vis comme étant finalement visage de Dieu. Et on sait très bien, parce que c'est la signature de Dieu, partout où il y a amour dans la différence, c'est qu'il y a présence de Dieu. Il n'y a que l'amour qui puisse faire l'unité dans la différence. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, toute la création est à l'image de ce visage étonnant de Dieu que nous apprenons à découvrir et qu'il nous faudra une vie et sans doute une éternité pour contempler, mais c'est que ce visage de Dieu est en fait le visage de l'unité dans la différence. Et où ailleurs que dans le couple manifeste-t-on davantage cet incroyable mystère de l'amour dans une différence absolument bouleversante. Je crois que quand on est marié, plus que peut-être les célibataires, on se rend compte à quel point un homme et une femme, c'est deux différences, mais complètement absolues.
Alors, c'est ça qui est extraordinaire dans ce premier texte de la Genèse, c'est qu'on voit que ce couple, qui est à l'image de Dieu, après la création, c'est le sommet. Et Dieu vit que cela était non pas bon, qui était tout, après toutes les étapes de la création et les différents éléments de la création, mais avec le couple, Dieu vit que cela était très bon. Et voilà, et tout est accompli. Et donc, il y a déjà dans cette révélation de la Genèse, tout ça était très bon. Ça veut dire que on est dans un grand bonheur. Et donc, quand Jésus, on n'oublie pas notre texte du début. On voit bien l'épreuve du couple, la dureté de cœur, etc. Mais comprendre la vocation du couple, notre vocation initiale, universelle, jamais reprise par Dieu, elle est pour un bonheur, un très grand bonheur, un très grand bonheur. C'est ça notre appel. Nous sommes d'abord appelés à la joie par Dieu. Toutes ces images de pieuserie, etc., en disant, voilà, le Seigneur, en fait, pour gagner votre paradis, vous allez payer la facture, etc., etc. C'est anti-évangélique, c'est anti-révélation. Nous sommes faits pour ce bonheur. Nous sommes conduits vers le bonheur. Et Jésus ne veut qu'une chose, c'est nous conduire vers là. Si effectivement nous ne l'expérimentons pas, c'est qu'à un moment, il y a un problème. Pas chez Dieu, chez nous. Donc à maman, il faut bien qu'à maman, on puisse le vivre, l'accueillir. Jésus veut une seule chose, c'est qu'on soit au sommet de la création et qu'on goûte un bonheur immense. Pas pour trois nuits, pas pour prendre son pied, etc., pour une journée ou une nuit. Non, pour la vie, et que ce soit un bonheur en crescendo. Ça, c'est notre appel, c'est l'appel de Dieu, et le Seigneur ne reprend pas cet appel. On se retrouve dans un instant.
Voilà,
Nous sommes en train de reprendre les débuts de la Genèse. On a essayé de lire ensemble le premier chapitre, enfin, quelques petits éléments du premier chapitre de la Genèse. On va passer maintenant avec le deuxième chapitre de la Genèse. Je vous rappelle que nous sommes dans ce parcours de l'Évangile pour le couple et nous sommes invités par Jésus au travers du chapitre 19 de Matthieu à pour mieux comprendre la vocation conjugale, à mieux accueillir la révélation qui est faite en Genèse. Alors Maud, Genèse 2.
Alors Genèse 2, c'est une sorte de zoom sur la création de l'homme et de la femme, alors que dans le premier chapitre de la Genèse, c'était finalement que la création du sixième jour qui avait été évoquée pour l'homme. Là, on a tout un chapitre sur la création de l'homme et de la femme. C'est comme un zoom sur justement ce qui fait le cœur de la création, le summum de la création, c'est l'homme, l'être humain. Et voilà que dans ce chapitre numéro 2, on prend le temps de détailler justement ce qui est vraiment, je dirais, la nature profonde de l'homme. Donc, il y aurait énormément à dire. Bien sûr, c'est très très frustrant de passer si vite sur la Genèse. Mais on va certainement juste prendre le temps de tirer quelques points qui concernent justement notre aspiration à la vie conjugale. Et donc, comment est-ce que l'homme et la femme sont, entre guillemets, formatés pour ce bonheur de l'amour. Alors la première chose que je voudrais souligner, c'est la création de l'homme à partir de la terre, avec un souffle qui a été donné par Dieu, et il devient un être vivant. Il se passe ce premier espèce de scénario un peu curieux qu'on appelle le test des animaux. Bibliquement, c'est ce passage où les animaux défilent devant Adam. Et l'être humain est chargé de leur donner un nom. Alors leur donner un nom, ça veut dire que il est au-dessus d'eux, il domine, il est capable de dire comment ils s'appellent, pourquoi il va les appeler comme ça, etc. Et puis on souligne aussi dans la tradition rabbinique que il a vu aussi les animaux s'accoupler et puis qu'il s'est dit, moi, mon aspiration, elle est pas là. Et finalement, j'expérimente une immense solitude à la vue de tous ces êtres vivants, certes, mais qui ne sont pas des hommes. Et cette solitude-là, il va la vivre de façon tellement forte que, elle va faire partie de nos gènes jusqu'à la fin de l'humanité. C'est-à-dire que chacun d'entre nous ressent en lui-même cette solitude profonde. Et cette solitude, au lieu d'être simplement une occasion, je dirais, de désespérance, va être un moteur, un désir pour nous pousser à cette rencontre de l'autre. L'autre étant, bien sûr, mon conjoint éventuel, mon voisin, mon frère, tous ceux qui m'entourent, mais l'autre est aussi Dieu. Et finalement, au fond de moi, il y a un vide, une solitude qui appelle la présence de l'amour.
Alors on va essayer d'avancer un peu, on passe un peu vite, hein, c'est un peu des petits flashs. Alors il y a un moment que tu aimes particulièrement, Maud, c'est par cet épisode bien connu de la création d'Ève au travers de la côte d'Adam. Parle-nous un peu de cette côte qui va justement, on va voir, nous renvoyer à des éléments par rapport à l'image de Dieu qui était déjà révélée dans le premier chapitre de la Genèse.
Voilà, donc l'être humain en fait va être plongé dans un profond sommeil parce que Dieu va constater et dire clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cette solitude-là ne fait pas partie du projet de Dieu, même si elle est inscrite en nous pour nous pousser dans la relation. Et c'est dans la façon dont finalement Dieu prend l'initiative, endort l'homme, et de l'être humain, il va comme ouvrir un côté et faire jaillir une séparation homme-femme. Donc on avait d'abord un être humain, et puis maintenant on en a deux, l'un qui est un pôle masculin, l'autre un pôle féminin, et à ce moment-là, Adam va se réveiller et trouver en face de lui un être féminin qu'il appellera Ève, la mère des vivants, et il va jubiler, absolument, vraiment tomber dans une sorte d'exultation incroyable.
Alors, avant d'arriver sur cette exultation, quel est justement le sens de cette côte par rapport au tabernacle ?
Voilà, alors le mot « côte » qui est employé dans la Bible à ce moment-là est un mot qui signifie qu'on va retrouver trois fois. La première fois, donc, c'est la séparation. L'homme et la femme sont séparés par cette côte. Et la deuxième fois, c'est quand les Hébreux sont dans le désert et que les deux côtés du tabernacle réunis contiennent la présence de Dieu, manifestent la présence de Dieu dans le désert quand les Hébreux marchent et jusqu'à la terre promise. Et puis la troisième fois, on va retrouver ce terme, c'est au côté transpercé du Christ, cette côte qui est transpercée par la lance et d'où va jaillir l'Église qui sera donc l'épouse du Christ, mais ça on en reparlera plus tard.
Voilà, donc on est déjà un peu dans cette symbolique vraiment que l'homme et la femme, côte à côte, révèlent la présence de Dieu. Hein, ça fait écho à ce qui nous était dit dans Genèse 1 par rapport à la vocation de l'homme et de la femme. Et donc effectivement, comme tu l'as dit Maude, il y a ce temps qui est exceptionnel, qui est cette rencontre, cette première rencontre de Adam et d'Ève, et voilà ce cri de joie. C'est pas Adam qui dit tiens, oui c'est intéressant, je vois Ève, tiens c'est peut-être celle qui me convient, etc. Et fait une analyse en trois points sur Ève, pas du tout. C'est vraiment une exultation. Voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Et c'est un cri de joie de la part d'Adam. Et c'est un cri de joie qui vient vraiment des profondeurs. Pour créer ce une seule chair, dit la Genèse, c'est vraiment la vocation. Ça veut dire que l'amour que nous avons en tant qu'hommes et femmes, nous avons une vocation. C'était déjà dit à la fin de Genèse, c'était une vocation au bonheur. Mais là, on voit que c'est une exultation de joie. L'amour que nous partageons doit nous conduire par une petite joie. Non, pas une petite joie. Ça, c'est pas biblique, c'est pas évangélique. À une immense joie. C'est notre vocation. Si nous ne la goûtons pas, c'est qu'il y a peut-être un problème quelque part. Et donc, il faut rentrer dans la révélation. C'est cette immense joie que nous avons à partager ensemble et qui doit se traduire dans ce qui est le symbole de notre unité. C'est ce une seule chair. Nous sommes appelés, de par la Genèse, à faire un seul être, un seul esprit, un seul corps qui doit se traduire dans ce une seule chair, dans le sens de cette sexualité. C'est pour ça que la sexualité est au cœur de la révélation. La sexualité conjugale est au cœur de la révélation. Et d'ailleurs, Maude, Jean-Paul II aura des mots extrêmement forts pour montrer que, effectivement, toutes les idées qui disaient à un moment que Dieu restait à la porte de la chambre et tout ce qui touchait plus ou moins à ces choses, entre guillemets, ce n'était pas biblique, ce n'était pas dans le cadre de la révélation, et que le mariage n'était que pour lutter finalement que pour la concupiscence, eh ben, Jean-Paul II va prendre complètement le contre-pied en venant justement sur le cœur, sur le sens de ce une seule chair et de cette sexualité.
Oui, parce que quand on a justement cette image en tête que Dieu a créé l'homme et la femme en les séparant et en les mettant face à face, en vis-à-vis, et que l'un et l'autre vont apporter à l'autre la part d'humanité finalement qui lui manque, alors ce vis-à-vis se réalise le plus parfaitement dans l'acte sexuel, qui est le lieu où justement se célèbre l'amour. Et Jean-Paul II va aller jusqu'à utiliser le terme de la liturgie. Il va parler de la sexualité comme la liturgie même propre des époux, c'est-à-dire l'endroit, le geste qui va permettre au couple de célébrer l'amour et de faire jaillir l'image de Dieu, le visage de Dieu dans cette unité que l'homme et la femme vont célébrer ensemble.
Le sens, quel est le terme de liturgie? Qu'est-ce que dit le Concile? Le Concile Vatican II, en parlant de liturgie, l'expression et manifestation d'un mystère divin authentique. De par notre vocation universel en tant qu'hommes et femmes, choisis devant Dieu, quand nous nous unissons, nous célébrons et nous manifestons un mystère authentique, le mystère même de Dieu dont nous sommes l'image. C'est pour ça que Jean-Paul II, on va bien citer Jean-Paul II, sinon après on va dire qu'on est hérétique, le langage des corps devient la langue de la liturgie et élève le pacte conjugal aux dimensions du mystère. Voilà le sens, voilà la bénédiction, voilà la joie à laquelle nous sommes appelés. Bien sûr, on va le voir dans les prochaines émissions, nous y avons renoncé. Nous sommes infidèles profondément à ce mystère, mais c'est notre appel, et c'est pas un appel oublié, c'est un appel universel. Et Jésus vient le souligner en Matthieu 19, c'est ce à quoi vous êtes appelés, cette joie, cette exultation, cette liturgie, cette rendre présent le mystère même de Dieu par votre amour, par votre unité, par votre sexualité, voilà notre appel. C'est pas un bel appel, ça, c'est pas un beau bonheur. Merci Seigneur pour cette révélation que tu nous conduis à accueillir aujourd'hui. Voilà, la semaine prochaine, on repartira à partir de cette révélation, mais on verra effectivement combien c'est difficile de le vivre, et combien effectivement on en est à bien des égards, bien loin. Pourtant, la promesse n'est pas enlevée. À la semaine prochaine.
Retrouvez Alex et Maud Loriot-Prévost dans leur livre en 3 volumes, L'Évangile pour le couple, aux éditions du Jubilé.
Encouragement that continues forever.
May the grace.